on a les nerfs qui fonctionnent.
Guéret n'a pas besoin d'école pour être ingénieur. Il a 10 ans, il fabrique pont au quartier. Actuellement même, il parle avec le président.
Pour parcourir le robinet.
On voit le marché du projet pompier. Je dis respecter le Guéret. C'est comme chanson de Dagu, sans Oa. Taïsonne est guéré. Oh Taïsonne, il vient de Taï. Comme c'est tout être cassé.
Radio de la paix, il est 18h. Journal de 18h. Linda Christelle Ballier.
Madame, monsieur, bonsoir et merci de votre fidélité à l'écoute de Radio de la Paix. En titre de ce 18h processus électoral en Côte d'Ivoire, le nouveau programme d'appui dénommé Siècle a été lancé hier lundi à Abidjan en présence de l'ambassadeur des États-Unis en Côte d'Ivoire. On en parle à l'entame de cette édition. Et puis la CAPEC, la cellule d'analyse de politique économique du CIRES, commémore ses 30 années d'existence. Une célébration couplée au 10e sommet des think tanks d'Afrique prévu le 10 octobre prochain. Législative au Sénégal, 41 listes de candidats ont été validées par la Direction générale des élections. Voilà pour nos grandes lignes. Le nouveau programme d'appui pour des élections démocratiques et la promotion du leadership civique et politique dénommé Siècle, une initiative quinquennale 2024-2029 portée par le Consortium pour les élections et le renforcement du processus politique a été lancé hier lundi dans la commune de Marcory en présence de l'ambassadeur des États-Unis en Côte d'Ivoire et le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Ce programme sera financé à hauteur de 15 millions de dollars. Américain. Les détails avec Jean-Mélène Bitti.
L'ambassadrice américaine Jessica Davis-Ba a salué les valeurs partagées entre son pays et la Côte d'Ivoire.
La démocratie est une valeur partagée entre les États-Unis et la Côte d'Ivoire.
Sur les quelques actions à mener dans le cadre de ce projet, Marie-Ève Bilodeau, directrice senior du siècle.
Un soutien tant technique que financier sera apporté des acteurs civiques pour renforcer les initiatives en matière d'observation électorale. Le COSIVSI déploiera 124 observateurs durant la période de révision de la liste électorale. Mais près de 1000 observateurs seront aussi à l'œuvre à travers la Côte d'Ivoire lors de la présidentielle de 2025.
Le ministre de l'Intérieur, Diomandé Vagondo, a transmis un message du Premier ministre à Beugré Mambé aux partis politiques.
Une élection se fait avec un électorat bien éduqué et préparé à voter. Elle se fait également avec des acteurs politiques responsables. Je voudrais donc encourager les groupements et partis politiques à initier des formations à l'endroit de leurs membres, à la culture démocratique.
Tidiane Thiam du PDCI, Charles Blégoudé du COGEP et Chrisoua Anangaman du PPACI ont appelé à l'enrôlement pour la révision de la liste électorale.
Inscrivez-vous sur les listes électorales, exercez votre droit de vote et c'est la manière dont vous devez vous exprimer politiquement. Charles Blégoudé, votre voix peut faire la différence. La seule manière de le faire, c'est sur la liste électorale.
Chrisoua Anangaman, il faut que chaque militant du PPACI se transforme en une voix pour notre candidat, le président Laurent Gbagbo.
Dans le cadre de ce projet, 25 radios communautaires et Radio de la Paix seront sollicitées pour une campagne de sensibilisation accrue.
Un demandeur d'asile ou un réfugié enregistré par l'UHCR, le Haut Commissariat des Réfugiés, qui reçoit le statut de réfugié, ne peut se faire enrôler pour une carte consulaire. Cette incompatibilité de documents d'identification des étrangers résidant en Côte d'Ivoire a été expliquée aux réfugiés et aux demandeurs d'asile de la région du Bunkani par les humanitaires du HCR. Tout contrevenant se verra retiré de la base de données du HCR. On écoute à ce propos Évariste Delagoulé, chef du bureau HCR de Bouna.
les ressortissants étrangers qui sont dans un territoire, lorsqu'ils sollicitent des autorités consulaires ou diplomatiques de leur pays la délivrance d'un document, c'est qu'ils se réclament de la protection de cet État. Et c'est incompatible avec le statut de demandeur d'asile ou de réfugié. On ne peut pas obliger quelqu'un à être réfugié ou à demander asile. Mais s'ils choisissent de faire des cartes consulaires, ça veut dire qu'ils ne choisissent pas le statut de demandeur d'asile. S'ils choisissent le statut de demandeur d'asile, c'est qu'ils estiment que leur pays ne peut pas les protéger. C'est pour ça qu'ils demandent aux autorités ivoiriennes de les protéger. Donc, les deux sont incompatibles. À un moment, si on se retrouve avec des gens prétendus demandeurs d'asile qui ont des cartes consulaires, on sera obligé de les retirer de la base de données des demandeurs d'asile. Ils seront considérés comme les autres Burkinabés qui habitaient déjà en Côte d'Ivoire et qui avaient les cartes consulaires, qui vont peut-être avoir des cartes de séjour. En tout cas, tout ce que l'État a mis en place pour les identifier.
C'était à l'instant Évariste Delagoulé, le chef de bureau du Haut Commissariat pour les réfugiés de Bouna, dans des propos recueillis par notre correspondant dans le Bunkani, Jérôme Kouassi. On parle à présent de sécurité routière. La protection des usagers vulnérables de la route, c'est le thème de la 21e édition de la Semaine nationale de la sécurité routière qui se tient depuis le 3 octobre dernier et ce jusqu'au 10 prochain sur l'ensemble du territoire national. Initié par le ministère des Transports à travers la direction de l'Office de sécurité routière OSER, cette initiative s'inscrit dans le cadre de la stratégie nationale de la sécurité routière. Jean-Claude Mabéa a suivi le lancement de cette édition jeudi dernier à Abidjan, Cocody principalement, précisément à la mairie de Cocody.
Le directeur de l'Office de la sécurité routière, OSER, a justifié le choix du thème de cette 21e édition de la Semaine nationale de sécurité routière, Étienne Kouakou.
Malheureusement, cette frange d'usagers représente plus de 60% des victimes des accidents corporels. Et ça, nous avons dit qu'il faut qu'il y ait un regard tout particulier sur ce type des usagers. Eux-mêmes d'abord, pour leur donner les conseils de bon comportement sur les voies publiques, et ensuite tous les autres qui partagent l'espace routier avec eux, de les prendre en considération dans leur comportement à eux. Nous souhaitons qu'au terme de cette semaine de sensibilisation, qu'il y ait une prise de conscience générale.
Accusé à tort ou à raison d'être depuis quelque temps à l'origine des accidents, le président de la Fédération nationale des livreurs de Côte d'Ivoire a pris cet engagement. Ousmane Bamba.
En tant qu'acteur vulnérable du secteur du transport, nous allons encore sensibiliser nos différents collègues pour qu'aujourd'hui il y ait zéro accident au niveau du secteur de la livraison et qu'on ait des acteurs professionnels.
Et le président de la coordination nationale des gares routières de Côte d'Ivoire, Touré Adama, a réitéré son appel à l'endroit des conducteurs en ces termes.
Arrêtez de vous doper quand vous êtes fatigué, reposez-vous. Ne prenez pas des accidents, ça vous détruit, ça vous tue. Et vous tuez aussi les gens dans les accidents.
Des opérations de sensibilisation sont prévues au cours de cette 21e édition de la Semaine nationale de la sécurité routière avec le déploiement d'un dispositif particulier aux abords des établissements scolaires et sur plusieurs axes accidentogènes du pays.
La cellule d'analyse de politique économique du CIRES CAPEC est une structure de l'université Félix Fouette-Boigny d'Abidjan Cocody qui depuis 30 ans œuvre au renforcement des capacités des cadres de l'administration publique, du secteur privé et de la société civile, mais également à une vocation sous-régionale, notamment à travers un appui technique aux institutions nationales et sous-régionales comme l'UEMOA ou la CDAO, dont plusieurs représentants ont effectué les déplacements à Abidjan pour célébrer les 30 ans du CAPEC. Le compte-rendu de la cérémonie avec Mata Touré.
Après 30 années de production de connaissances pour enrichir la prise de décision et de renforcement des capacités des cadres de l'administration publique d'ici et d'ailleurs, il est apparu nécessaire à la cellule d'analyse de politique économique du CIRES de marquer un arrêt pour faire le bilan. Le professeur Alban Aouré, directeur de cette structure.
Nous nous sommes positionnés pour accompagner les politiques publiques en Côte d'Ivoire et dans notre sous-région. Et la CAPEC, au cours de ces 30 années, ne s'est pas concentrée seulement sur la Côte d'Ivoire. Les nouveaux critères de convergence de l'UEMOA, la vision UEMOA 2040, la vision Sodiao 2050, ce sont des documents qui ont été élaborés par la CAPEC.
Faire donc le diagnostic des activités de la CAPEC au cours des trois dernières décennies, mais surtout dégager des perspectives. Emmanuel Kofi Aoutou est le directeur de cabinet du vice-président Chimoku Meile Kone, parrain de l'événement.
Il faut partir sur ces fondements solides pour se projeter parce que les défis sont encore plus complexes pour l'avenir. Certains pays viennent de bénéficier d'une deuxième génération d'allègement de leur dette, donc renforcer sa capacité. À l'origine, c'était l'université d'Abidjan avec le CIRES, mais aujourd'hui, on a 9 universités. Faire en sorte que la réflexion soit également portée au niveau local pour susciter des talents de chercheurs parmi les jeunes chercheurs.
Cette célébration est placée sous le thème de la réflexion sur la contribution de la CAPEC à la transformation structurelle de la Côte d'Ivoire et au renforcement de l'intégration sous-régionale de 1993 à 2023. Elle est couplée avec le 10e sommet des think tanks d'Afrique qui se tient le 10 octobre 2024.
Et puis les fournisseurs de l'État de Côte d'Ivoire tirent la sonnette d'alarme face à l'accumulation des retards de paiement de leurs factures qui s'élèvent à plus de 800 milliards de francs CFA. Gray Faustin, le président du SINAFECI, au cours d'un point de presse lundi à Abidjan, a dénoncé le délai de règlement qui met en péril leur pérennité. Le point de la tribune avec Paul-Bénédicte Bolou.
Dans le règlement de ce contentieux, des instructions ont été données. Voici ce que dit le président du SINAFECI.
Le blocage, c'est au niveau de ceux qui doivent exécuter les paiements. C'est-à-dire les ordonnateurs de crédit, administrateurs de crédit, ceux qui sont à la direction de contrôle financier et ceux qui sont au paiement au trésor. En janvier 2024, le président donne les instructions. Le premier ministre, à son tour, donne les instructions au ministre des Finances du budget. Lui qui, à son tour, donne les instructions à la direction du trésor. Et depuis le mois de juin jusqu'à ce jour, il y a une lourdeur.
Gray Faustin se prononce sur les raisons de ce retard dans le paiement de leurs factures.
Il y a des paiements qui doivent être faits, les factures qui doivent être traitées, auditées à la Chambre des Finances et les factures qui ne sont pas payées à la direction des examens concours au ministère des Enseignements Techniques et les factures à la mairie de San Pedro à hauteur de plus de 1 milliard, 96 millions. Il y a au niveau de l'administration, il y a aussi le problème des gens qu'on appelle les rats du trésor qui se font appeler ça des facilitateurs. Quelqu'un qui n'est pas au trésor, qui n'est pas dans l'administration, qui appelle le fournisseur pour dire que tu as tel montant au trésor, moi je peux te faire payer, mais moyennant 20 à 50% du montant à faire payer, chose qui est anormale.
Le président du SINAFECI plaide pour la régularisation de leur situation.
Beaucoup ont jeté la clé sur le paillasson. Beaucoup sont décédés. Ils sont à la rentrée, les enfants ne vont pas à l'école. Mais les familles sont disloquées. Parce que quand le monsieur sort ou la femme sort, vient, il n'y a pas de dignité à la maison. Les enfants ne vont pas à l'école. Il n'y a plus de dignité. Et aujourd'hui, beaucoup sont malades parce que les sociétés sont fermées. Et il y a des dettes colossales sur la tête des fournisseurs de Côte d'Ivoire. Nous devons aussi, et à la poursuite, les commissaires, les gendarmeries, les huissiers, à la justice, le fournisseur de Côte d'Ivoire est dans une situation intenable.
Le SINAFECI, dans sa posture de patience, souhaite que le gouvernement ivoirien prenne ses responsabilités.
Protection sociale, la Mutuelle Générale des Fonctionnaires et Agents de l'État de Côte d'Ivoire, MUGEFSI, a procédé récemment sur l'esplanade de la cité administrative au plateau au lancement de la seconde édition de sa vaste campagne de dépistage des mutualistes. Cette opération gratuite concerne certaines pathologies telles que l'hypertension artérielle, le diabète, l'insuffisance rénale, les hépatites virales et bien d'autres. Écoutons les précisions du président du conseil d'administration de la MUGEFSI sur cette campagne, Paul Nyobo.
Ce dépistage, comme on le dit-on le dit, vaut mieux prévenir que guérir. La meilleure façon de mettre en place une stratégie de médecine préventive est de réaliser un dépistage de masse des maladies récurrentes chez les bénéficiaires. Cela nous permet d'adapter notre politique sanitaire aux besoins de la population. C'est de dépister au sein de la population certaines maladies comme l'hypertension artérielle, le diabète, la dyslipidémie, troubles du cholestérol, l'hépatite virale, l'insuffisance rénale, le cancer de la prostate. Bon, l'année dernière, on a fait les tests sur près de 12 000 personnes. Cette année, c'est sur près de 15 000 personnes. Donc, en fonction de notre capacité financière, nous déterminons la masse des fonctionnaires agents de l'État à dépister. Au fur et à mesure que nous allons progresser dans le temps, nous allons augmenter notre pour que, à terme, on puisse atteindre le maximum de personnes à dépister. Ça s'étend sur un mois. On a 21 localités dans lesquelles les opérations vont se faire. C'est pas payant, c'est gratuit.
À l'instant, Paul Nyogbo, président du conseil d'administration de la MUGEFSI, la Mutuelle Générale des Fonctionnaires et Agents de l'État de Côte d'Ivoire. Et puis, pour préserver la santé des habitants de l'Aigreville, de Bada et de Konankro, trois quartiers de Divo, où ces habitants subissent les nuisances sonores, eh bien, le délégué régional de la société civile du Lodjibwa, Yoro Isidore Lowry, en appelle à l'application des lois en vigueur par les autorités compétentes en la matière. On l'écoute donc dans des propos recueillis par Abel César Cassin, notre correspondant régional.
Il y a trois quartiers principalement. Il y a le quartier Libreville, Konankro, et il y a le quartier Bada, où ces nuisances sont vraiment de nature à interpellation. Les maquis, les discothèques, les boîtes de nuit, mais dans d'autres quartiers, il y a des nuisances, surtout au niveau des édifices religieux, près des domiciles, où les gens jouent de la musique, et ces nuisances-là, et surtout la nuit, empêchent les personnes de se reposer. Et donc, je pense que c'est une question de santé publique, c'est une question de sécurité aussi. Il faut que les décideurs puissent jouer leur rôle pour que les personnes se sentent effectivement écoutées quand elles dénoncent une situation, notamment les procureurs, les maires en tant qu'officiers de police judiciaire, la police, la gendarmerie, et le préfet en tant que représentant du chef de l'État chargé de la sécurité des populations. Donc je pense que chacun doit pouvoir jouer son rôle pour que, effectivement, les populations vivent dans la quiétude. Les chefs de quartier, c'est à eux aussi de pouvoir lancer à chaque fois ces autorités-là pour qu'on puisse avoir quand même des soupçons de mise en œuvre de la loi.
Vous écoutiez le délégué régional de la société civile du Lodjibwa, Yoro Isidore Lowry. Hors de nos frontières au Sénégal, 41 listes de candidats ont été validées par la Direction générale des élections pour participer aux législatives anticipées du 17 novembre prochain. Les recalés ont 24 heures pour déposer leur recours au niveau du Conseil constitutionnel avant la publication de la liste définitive. Et parmi les recalés par le ministère de l'Intérieur pour ces législatives anticipées, deux listes départementales de la coalition de l'opposition Takoualou emmenée par Macky Sall, faute de candidats suffisants pour des départements de Podor et d'Afrique de l'Ouest. Notons que l'ancien président sénégalais Macky Sall a officiellement démissionné de son poste d'envoyé spécial du Pacte de Paris pour les peuples et la planète en vue de ces législatives. Toujours au plan international, on parle cette fois du 19e sommet de la francophonie tenu les 4 et 5 octobre dernier à Villers-Cotterêts et à Paris en France. Le sommet a vu l'intégration de deux pays, à savoir l'Angola et le Chili, à l'Organisation internationale de la francophonie OIF. Cela à leur demande et en raison de leur proximité avec l'espace francophone et aussi leur volonté de le découvrir, nous dit la secrétaire générale de l'OIF, Louise Mouchiki-Wabo.
La francophonie est un grand espace où la langue française est pratiquée à différents niveaux. Ce que moi j'ai voulu à mon arrivée à la tête de l'OIF en 2019, c'était de prendre une pause et de revoir les critères d'adhésion à notre organisation, surtout le critère linguistique. Un critère qui est très important, mais qui a aussi à voir avec l'engagement, la volonté, par exemple, de vouloir amener la langue française dans le système éducatif du pays. C'est important. Alors l'Angola, mon arrivée en 2019, m'avait demandé à intégrer la francophonie parce qu'en fait, ils sont voisins, par exemple, de la grande République démocratique du Congo. Beaucoup d'Angolais travaillent avec et voyagent dans la région du Golfe de Guinée, qui est à la fois lusophone mais francophone aussi. Et donc, la présence de l'Angola dans notre organisation s'explique. Le Chili, je pense que c'est surtout par rapport à la relation que le Chili historiquement a eue avec la France. Mais vous serez étonné de voir à quel point la langue française, tous les aspects culture et cette volonté de découvrir des zones francophones loin de leur territoire intéressent beaucoup, par exemple, les pays de l'Amérique latine.
À l'instant, la secrétaire générale de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, Louise Mouchiki-Wabo. Et cette intervention met un terme à notre édition, dont voici le rappel de l'essentiel. Processus électoral en Côte d'Ivoire, le nouveau programme d'appui dénommé Siècle a été lancé hier lundi à Abidjan en présence de l'ambassadeur des États-Unis en Côte d'Ivoire. Et puis la CAPEC, la cellule d'analyse de politique économique du CIRES, commémore ses 30 ans d'existence, une célébration couplée au 10e sommet des think tanks d'Afrique prévu le 10 octobre prochain. Merci à vous d'avoir été des nôtres pour ce dernier bulletin de ce mardi 8 octobre 2024 sur Radio de la Paix. Nous vous souhaitons une excellente soirée à l'écoute de la radio avec votre magazine Mon droit au quotidien piloté par Aoussi Potin. Mon droit au quotidien, votre